20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 29 août 1987. Madonna enflamme le parc des Sceaux et envoie sa petite culotte à Jacques Chirac. Il fait chaud en cette fin d'été 1987. Aussi chaud que Sous le soleil de Satan, le dernier film de Piala qui s'apprête à sortir en salle et à créer la polémique. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, Ivan Lendl a battu Mats Wilander en finale de Roland-Garros. Mais ce n'est ni pour l'un, ni pour l'autre que Paris va vibrer en cette fin du mois d'août. Non, c'est pour une jeune américaine qui s'appelle Louise Chicone, que l'on connaît sous un autre nom, celui de Madonna. Cela fait 3 ans qu'elle a surgi dans nos vies et dans nos oreilles. Madonna est donc à Paris et c'est l'événement, un événement ô combien attendu. Et pourtant, tout n'a pas été si simple pour la venue de la nouvelle star de la pop, car le maire de Sceaux, Pierre Higgenbosch, ne voulait pas de la reine de la provoque dans sa ville. Mais c'était sans compter sur le plus grand fan français de la chanteuse, le Premier ministre et maire de Paris, Jacques Chirac. Car si le Premier ministre veut Madonna, alors le concert aura lieu. Le 29 août 1987, plus de 130 000 spectateurs ont acheté leurs billets pour 130 francs. Ils sont venus de toute la France et même de l'étranger, une véritable marée humaine. Dans la foule, Johnny Hallyday, Catherine Deneuve, Yannick Noah, Sylvester Stallone, Alain Delon, Mireille Darc, mais aussi toute la famille Chirac, Jacques, Bernadette et leur fille Claude. Madonna monte sur scène, gratifie la foule d'un regard de braise et prend la parole.
Vous êtes chaude ? Vous êtes prêts, excusez-moi. Je suis chaude et prête aussi. Let's go!
Madonna, en reine de la provoque, a même jeté sa petite culotte dans la foule. Et la légende veut qu'elle ait atterri sur les genoux de Jacques Chirac, maire de Paris, comme par hasard. C'est tout ému qu'il la recevra le lendemain à l'hôtel de ville, en présence de Lynn Renault, qui se verra remettre un chèque de 500 000 francs à l'Association des artistes contre le sida. Nous sommes le 29 août 1987. Madonna fait monter la température de Jacques Chirac et de la France tout entière. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, nous sommes le 29 août 1987. Il fait chaud et la température monte lorsque les 130 000 spectateurs se pressent sur la pelouse du Parc de Sceaux. C'est 50 000 de plus qu'au Stade de France, vous imaginez le monde. Ils viennent de partout.
Bruxelles.
De Londres.
On vient de la Colombie.
Pour applaudir la star de la pop Madonna, Romain Burel. Bonsoir.
Bonsoir.
Il n'y a que Madonna dans votre vie.
Il y a à peu près que Madonna dans ma vie. Non. Il y a 2 ou 3 autres icônes, mais elle fait partie des femmes qui ont tellement marqué le show business et notamment la musique qu'elle est incontournable, quoi.
Voilà. Vous êtes journaliste culture. On vous a lu dans Les Inrocks, dans Têtu. Vous travaillez également pour Rock and Folk. Et on parle quand même d'un concert exceptionnel ce soir parce que c'était son premier concert en France.
Ouais. Et puis alors, c'est une époque, les années 80, où le gigantisme, comment on commence à s'habituer au concert énorme. Tina Turner réunit énormément de gens à Rio, les Rolling Stones font des tournées comme ça depuis les années 70, etc. Mais il y a très peu de femmes, en fait, qui arrivent à remplir autant des espaces aussi grands. Et celle qui va essuyer les plâtres et faire en sorte que ces concerts aréna deviennent un peu un standard, bah, c'est Madonna. Ouais. C'est elle qui a inventé, en fin de compte, ce show business XXL. Toutes les Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga d'aujourd'hui lui doivent tout, parce que les tables de la loi de la pop ont été écrites par Madonna.
En tout cas, elle n'était pas la bienvenue pour tout le monde, car si la France avait les yeux rivés sur Madonna, eh bien il en est un qui aurait préféré qu'elle aille voir ailleurs, c'est le maire de Sceaux, Pierre Higgenbosch.
Lui, monsieur Higgenbosch, il n'en voulait pas de Madonna. Seulement, vous connaissez l'histoire que propagent les chroniqueurs à longueur de colonne depuis que Jacques Chirac, notre Premier ministre, a un nouveau look et que sa fille Claude lui a soufflé que Madonna, c'était loin d'être de la roupie de Sansonnet. Eh bien c'est Matignon qui a eu raison de la mairie de Sceaux et de son maire.
Romain Burel. Sans Jacques Chirac, point de Madonna, mais sans Lynn Renault non plus.
Exactement. Je ne suis pas sûr que Madonna était vraiment sur la carte de Jacques Chirac à l'époque. Mais
elle était sur la carte de Claude.
Exactement.
Mais
en tout cas, il y a probablement l'idée d'aller séduire un peu les jeunes, en tout cas, de s'afficher avec elle, etc. à ce moment-là. Et Lynn Renault interviendra aussi pour dire que bah voilà, c'est quelqu'un d'important, et c'est quelqu'un d'important notamment dans la lutte contre le sida. L'intervention du Premier ministre de l'époque va permettre et faciliter ce concert assaut. C'est vrai que c'est pas évident. On est dans un pays où les autorisations administratives, c'est tout un art. Elle veut cet endroit-là parce qu'elle estime que elle peut, sa tournée est si gigantesque qu'il lui faut quelque chose de bigger than life, et que le parc de Sceaux, c'est un endroit un peu tout désigné. Ça sera un concert de légende. Mmh. Il y aura très peu d'artistes qui se produiront là-bas. Aujourd'hui, c'est plus trop la mode d'aller à Sceaux, mais c'est un concert qui, in fine, aura été non seulement énorme, mais en plus hyper symbolique d'une époque. Puis Madonna, elle arrive pas les mains vides quand elle vient à ce concert pour remercier probablement Jacques Chirac, et puis l'intervention, j'allais dire divine quasiment, de Lynn Renault auprès d'elle. Elle vient avec un chèque pour la lutte contre le sida.
Voilà. Et elle reversera justement une partie des recettes de ses concerts à l'Association des artistes contre le sida, que présidait donc Lynn. Elle remettra personnellement ce fameux chèque dont vous parlez, de 500 000 francs, à l'association, en présence du maire de Paris, Jacques Chirac. Écoutez-le depuis l'hôtel de ville, c'est savoureux.
Je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre un fléau qui touche tout le monde, et notamment la jeunesse. I just want to thank you very, very much. It's a great privilege for us to have you here.
You're welcome.
Eh, alors, non, on voulait absolument que vous entendiez cette archive. Non, mais alors, faut dire quand même que la veille, la légende dit qu'il a récupéré, il a retrouvé sur ses genoux en plein concert la petite culotte de Madonna.
Oui,
donc c'était un cadeau.
Ce qui était absolument faux, parce qu'effectivement, il y a une séquence dans le concert où elle lance sa petite culotte. Il était dans le public, donc voilà, la rumeur a voulu. Mais je crois qu'il y a un dessin dans le canard aussi qui a dû paraître, qui a dû un peu extrapoler, les gens extrapoler. Par contre, ce qui est très drôle, c'est d'écouter quand un politique veut essayer de faire jeune, mais c'est toujours un peu savoureux, chic et sympa. Aujourd'hui, on l'écoute, on est assez, c'est presque attendrissant en fait.
Non mais c'est savoureux, et puis c'est le personnage aussi Jacques Chirac.
Exactement.
Qui est à côté de Madonna, donc il y a tout un truc. On sait que Jacques Chirac était sensible au charme des jeunes femmes.
Mais
aussi.
Un demi-million de francs à l'époque, c'est pas rien. Je veux dire, mine de rien, elle arrive avec un chèque assez conséquent.
Exactement.
On est à une époque encore où, mine de rien, ils sont très peu les artistes à vraiment s'engager dans la lutte contre le sida. Dans les années 90, ça deviendra quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire. Ça va se démocratiser. Au départ, cette maladie qu'on connaît mal, qui touche des gens, on n'a pas vraiment envie de s'en saisir. On sait qu'en plus, elle concerne surtout la communauté homosexuelle, donc ça elle revêt cette maladie, quelque chose qui fait que très peu d'artistes ont envie d'en parler au départ. Madonna, dès le départ, elle en parle. Dans une de ses pochettes d'albums, où elle glisse toute une carte où elle explique ce que c'est que le safe sex, c'est-à-dire de mettre un préservatif, que les personnes séropositives, qu'elles ne transmettent la maladie que si jamais elles ont des rapports sans préservatif, etc. Elle s'est excessivement engagée dans cette lutte. C'est pas rien. Et je pense que elle a vraiment changé le rapport à la sexualité à ce moment-là. Et heureusement qu'elle était là avec quelques autres, je pense à Elizabeth Taylor, pour un peu changer le stigmate, quoi.
Madonna, donc une femme engagée, on l'aura compris. On vous raconte dans un instant ses débuts sur l'antenne d'RTL avec Romain Burel dans Jour J. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute, toujours enthousiaste et attentive à Jour J. Jour J qui vous emmène ce soir au cœur des années 80, notre jeunesse. Souvenez-vous, Madonna. Madonna que l'on découvre au milieu des années 80, en 1984. Elle sort son premier grand tube, Like Virgin. Mais auparavant, Romain Burel, vous êtes notre invité. On va revenir sur cette Madonna que l'on méconnaît. Une Madonna qui a eu, comme tout à chacun, une enfance. Et on va revenir sur tous ses débuts. En fait, elle naît en 58, c'est ça, dans le Michigan.
Ouais, elle naît à Bay City, c'est une petite ville à côté de Détroit. C'est pas un hasard, hein. Son père était designer dans l'automobile.
Oui,
Détroit. Une énorme ville de l'automobile. Je crois qu'il travaillait chez Chrysler de mémoire.
Mmh.
Et
Italiens.
Exactement. Du côté paternel, canadien du côté maternel, et elle va être marquée par un drame difficile, puisque à l'âge de 5-6 ans, elle va perdre sa mère.
D'un cancer du sein.
D'un cancer du sein, et ça va être la plus grosse brûlure de sa vie probablement et quelque chose dont elle se remettra probablement jamais. L'image, se construire sans avoir une image de femme, c'est que surtout quand elle est une jeune fille, c'est compliqué. Elle en parlera assez ouvertement jusque dans ses chansons. Il lui faudra du temps, mais sur un album America of Life, elle parle de son rapport à sa mère, etc. Et c'est ça, c'est une jeune fille qui très tôt montre des dispositions pour la danse plus que pour le chant. C'est une danseuse, elle apprendra des cours de danse très très tôt. Et puis dans ce sillage de ce talent, elle a envie de partir très très vite de Détroit où il y a à peu près pas d'avenir si vous voulez pas bosser dans l'industrie automobile, pour la seule ville qui compte aux États-Unis, peut-être au monde, dans les années 80, c'est-à-dire New York.
Ouais. Elle file à New York et là elle a un objectif précis, la musique fait partie de sa vie déjà ?
Pas tout de suite. D'abord, elle veut fréquenter un maximum de gens, qu'on s'imprégne un peu l'énergie de New York. On est sur un New York où Andy Warhol existe déjà, où il existe toujours, où il y a Jean-Michel Basquiat qu'elle connaîtra intimement.
Intimement,
très intimement.
Elle a été meuf de Basquiat.
Ouais, bien sûr. Pendant quelques temps, elle a fréquenté un peu toute l'énergie de ce New York du début des années 80.
Mais comment elle se fait sa place déjà dans ce milieu artistique underground ? C'est-à-dire que Madonna, à l'époque qui s'appelait donc Louise Veronica Chicon, elle se distingue déjà ? C'est déjà une personnalité qui sort du lot ?
Concrètement, elle arrive à retourner les gens en une soirée. Elle reconnaît quelqu'un sur une banquette. Elle se dit, c'est le producteur de Michael Jackson. Je vais lui parler, je vais lui expliquer pourquoi il va produire mon premier disque. Elle est comme ça. Elle a toujours eu cette énergie incroyable de conviction. Je pense qu'elle a décidé très tôt d'être une star mondiale et que, en gros, elle s'est donné les moyens de l'être, en fait. Et elle a ce charisme absolument dingue. D'ailleurs, tous les gens qui l'ont rencontrée vous en parlent en disant qu'en fait, quand elle rentre dans la pièce, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Au-delà de ce qu'elle représente aujourd'hui, c'était déjà vrai quand elle avait 19 ans.
Ouais, c'est ça. Donc un charisme, ce sont ces personnalités, je ne parle pas en termes de célébrité, mais vraiment des personnalités qui ont toujours une sorte de silence qui les précède et un silence qui suit leur passage, quoi, hein, qui laisse une trace.
Et elle n'était pas forcément, j'ai envie de dire, canoniquement belle, comme avec la beauté, c'était pas une beauté sublime comme on pouvait imaginer une Cindy Crawford ou des choses comme ça. C'était une très jolie jeune femme, pleine d'énergie, mais qui s'est créé un personnage. C'est pas comme si elle était... tout n'est pas tombé tout cuit dans sa bouche. Elle s'est créé vraiment un personnage dès les années 80.
Voilà, un personnage quand même qui s'est créé au fil du temps. Mais en 78, elle est arrivée à Paris.
Ouais.
Elle a tenté sa chance à Paris. Non, mais donc c'était avant vraiment de devenir Madonna.
Ah mais avant de devenir Madonna, la Madonna.
Elle a demandé à Patrick Hernandez de lui faire un titre.
Et surtout, elle se retrouve à être danseuse derrière Patrick Hernandez. C'est assez fou d'imaginer que derrière cette chanson qu'on connaît tous et sur laquelle on a tous remué un jour dans un mariage ou à un baptême, Born to be Alive. Il y avait dans les danseuses derrière Patrick Hernandez avec sa fameuse canne, Madonna qui dansait.
Donc elle a tenté sa chance en France, ça n'a pas fonctionné. Elle est restée danseuse, elle est revenue, elle n'aura rien fait en France.
C'était clairement pas son truc d'être une second couteau et puis d'être remisée derrière. Ce qu'elle voulait être, c'était être au premier plan, clairement.
Et comment elle a réussi alors ? Parce qu'elle est revenue à New York en 81, elle avait 22 ans et en 84 sort donc Like a Virgin. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ?
Elle va voir le producteur de Michael Jackson un soir qu'elle croise en boîte de nuit. Elle lui dit voilà, moi j'ai trop envie de devenir une énorme chanteuse, il faut que tu me produises. Et elle va le convaincre en fait, quoi. Elle va le convaincre, elle va mettre dans la boucle Nile Rodgers, qui est le producteur et le guitariste de Chic, qui à l'époque est un faiseur de tubes absolu, qui écrit pour les plus grands, qui écrira pour Whitney Houston, qui produira Duran Duran, enfin tout ce qui se fait de bien dans les années 80 et signe Nile Rodgers. Et voilà, et ils vont débarquer avec un single que la terre entière va commencer à fredonner dès le début des années 80.
Certains diront, même avant qu'elle débute, qu'elle avait une voix un peu de Minnie Mouse. Que c'était pas une grande chanteuse, elle était danseuse, mais c'était un tout, quoi.
Clairement, c'est avant tout une danseuse, c'est une femme qui, en plus, ce qui explique d'ailleurs qu'elle se soit maintenue physiquement aussi longtemps, je pense aussi, comme Mick Jagger, en fait, c'est un point commun qu'ils ont ensemble, c'est que c'est deux grands sportifs, avant d'être une interprète, j'ai jamais pensé que Madonna était une grande chanteuse, par contre, c'est une grande productrice, elle a un avis très très clair sur ce qu'elle veut, et surtout, elle a le génie, c'est d'avoir fait monter de ce qui est dans la rue, de l'arriver et de le pousser vers les caméras. Quand elle vient avec une chanson comme Vogue, Personne ne sait ce que c'est que le voguing. Alors aujourd'hui, avec les séries Pose, Kiddy Smile, etc., on voit ce que c'est. Mais sur une chanson...
Bah, moi, je vois pas, hein, je vous le dis tout de suite.
C'est cette fameuse façon
c'est
de danser
quoi, le voguing
avec les bras, etc.
C'est ça, le voguing.
Qui a commencé, en fait, qui est une façon
de danser... Ah ok, moi j'appelais ça le smurf, quoi.
Qui a commencé dans les années 80, dans la scène des drag queens et des personnes trans
D'accord.
à New York.
D'accord.
Et elle va chercher cette façon de danser, et elle en fait une chanson qui devient un tube planétaire, avec cette façon de danser qu'on connaît tous aujourd'hui, quoi.
Ça.
Exactement.
Ah bah donc moi aussi je sais voguer quoi.
Là. Alors c'est pas si évident que ça. Hein.
Bah attendez, qu'est-ce que vous voyez là? Je vogue ou je vogue pas hein? Allez, on vogue tous sur l'antenne d'RTL. Non, ne dites rien Romain
Burel. C'est pas très radiogénique, mais effectivement Flavie vogouille.
Je vogouille ce soir, on vogouille tous ensemble. Et donc on se retrouve dans un instant pour parler de Madonna. Madonna l'artiste engagée et la provocatrice. Et elle en a fait, hein. Elle en a fait de belles. Hein. C'est avec Romain Burel dans Jour J, à tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
C'est en 1984 que Madonna sort donc son premier grand tube « Like a Virgin ». Et là, tout de suite, elle donne la couleur. Sur une cérémonie de remise de prix sur MTV, elle sort d'un gros gâteau. Elle est vêtue d'une robe de mariée où il est inscrit sur la ceinture « Jouer pour garçon ». Elle montrera ses sous-vêtements ce soir-là et sa prestation fera date. Et une chose est sûre, elle ne va pas s'arrêter là en termes de provoque. Elle saura d'ailleurs toujours mélanger les tabous comme le sexe et la religion, Romain Burel.
Ah, c'est même elle a inventé ce fonds de commerce quasiment, j'ai envie de
Mais
dire.
Mais c'est fou parce qu'elle est croyante. Hein.
Elle est croyante. Donc « Like a virgin, comme une vierge touchée pour la première fois ».
Bien sûr.
Dès les premières paroles, voilà, le ton est donné. Je pense qu'elle a... Elle est profondément croyante, qu'elle est habitée par une vraie spiritualité.
Elle dit qu'elle a eu une éducation stricte de la part de son père,
notamment,
hein, italien, en matière justement de religion.
Mais qu'elle connaît aussi le poids du patriarcat, c'est-à-dire le poids des hommes sur les femmes, et qu'elle est très très consciente que la religion a un rôle très très fort dans cette éducation un peu macho, dont on a encore du mal aujourd'hui de ça, à se débarrasser. Et elle a envie de basculer le bastingage des normes, en fait, ça a été son truc. Ce qu'elle a envie de faire, c'est de pousser le schmilblick, de voir un peu si on peut pas avoir une conversation qui irait au-delà de la musique, mais qui passerait par la provocation pour remettre un peu et la religion et les hommes à leur place.
Et vous parlez d'un fonds de commerce aussi. Est-ce que c'est l'une aussi des premières artistes à avoir pigé que faire le buzz, ben finalement, ça fait vendre?
Non, c'est pas une des premières artistes à avoir compris qu'il fallait faire du buzz pour potentiellement exister. Par contre, j'ai l'impression qu'on pardonnait beaucoup plus à ses homologues masculins qu'à ses homologues
féminins. Très certainement.
Quand les Rolling Stones chantaient Brown Sugar ou des chansons très sexuelles, comme par hasard, ça passait crème.
Absolument.
J'ai envie de dire. Alors que quand c'est une femme, quand c'est Madonna qui réclame sa sexualité et qui la met en scène, alors là, par contre, plus rien ne va.
1987, Justify My Love, très beau clip d'ailleurs de Jean-Baptiste Mondino, avec donc des scènes de sexe et de bondage.
Tournée au Royal Monceau, un hôtel parisien, en plan séquence en noir et blanc sublimissime, où les plus beaux mannequins de l'époque sont entremêlés les uns dans les autres, j'ai envie de dire, et où Madonna part au petit matin, après ce qu'on imagine être une orgie,
avec sa
cravache, passe des suites ensuite,
ouais.
et qui a l'air de beaucoup s'amuser. Un fantasme, hein, celui de Jean-Baptiste Mondino, partagé avec celui de Madonna, un des plus beaux clips de l'histoire des clips.
C'est vrai.
C'est quelque chose de... Et encore une fois, voilà, elle arrive à jouer avec les codes du sexe et pas simplement les codes du sexe, de l'hétérosexualité. Elle a toujours été inclusive dans sa vision de la sexualité. On la voit embrasser des femmes, on voit des couples d'hommes. À une époque où la représentation LGBT est à peu près au niveau zéro, ou alors justement... qu'on parle des personnes LGBT que quand on parle du sida, là, elle montre une sexualité enjouée, joueuse, partagée, safe, c'est important de le dire, mais à une période marquée donc justement par la maladie, elle est aussi là pour dire que c'est pas parce qu'il y a une chape de plomb qui pèse sur nos épaules et les épaules de la jeunesse notamment, qu'il faut se désintéresser du sexe et regarder ailleurs.
1989, Like a Prayer. Elle danse devant des crucifix, elle embrasse un Christ noir. Jean-Paul II appelle au boycott de la chanson.
Ouais.
Alors là, elle secoue le Vatican. Hein.
Elle secoue le Vatican. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que à l'époque, alors on est sur une ère pré-YouTube, hein, donc il n'y avait pas de commentaires sous les vidéos, mais sur MTV, on reçoit des coups de fil et des courriers. Ce qui choque les gens, c'est pas qu'il y ait des croix qui brûlent derrière, parce que ça, on a l'habitude d'en voir aux États-Unis depuis le Ku Klux Klan. Non, ce qui choque, c'est que le Christ soit noir.
C'est ça.
Donc en fait, elle touche quelque chose à l'âme des États-Unis qui est clairement le racisme endémique américain. Plus que des problèmes de religion et de croix qui brûlent, en fait. En plus, cette chanson, qui est un gospel, j'ai envie de dire, dans la plus pure tradition, est une très très belle chanson, pas du tout provocatrice dans ses paroles. Là, par contre, c'est le clip qui va poser problème. Et Madonna est la première étonnée à se dire qu'en fin de compte, les gens focalisent sur ce Christ à la peau noire, plus, ce qui d'ailleurs n'est pas une aberration totale quand on sait où est né le Christ et à la période à laquelle il est né. Elle était persuadée que ce serait les croix qui brûlent derrière elle quand elle danse qui allaient faire, entre guillemets, le buzz, voire créer la polémique. Et finalement, pas du tout.
1990, on est à Toronto et elle simule la masturbation sur scène. Elle est menacée d'arrestation pour atteinte à la pudeur.
Beaucoup de gens ont été arrêtés sur scène. Moi, je pense à Jim Morrison, effectivement, qui aussi avait plus ou moins menacé de sortir son sexe sur scène, ou qui l'avait fait, d'ailleurs, je ne sais même plus. Et qui, donc, avait été aussi reçu par le panier à salade sur scène, je crois, à Los Angeles. Donc, clairement, ce n'est pas une première. On est dans un pays qui, finalement, devrait être moins puritain que les États-Unis, qui est le Canada. Mais il y a un procureur qui dit, attention, si jamais elle décide de faire ce moment de son spectacle, on arrêtera le show et on débarquera sur scène. Elle se démonte pas. Il y a toute une séquence qu'on voit très très bien dans un film que nous en France on connaît sous le nom de In Bed with Madonna. In Bed with Madonna, pour moi, c'est vraiment presque le précurseur du loft, en fait. C'est-à-dire que ça a quasiment inventé aussi la télé-réalité. C'est-à-dire c'est une caméra qui la suit tout au long de la tournée et où elle dit qu'elle montre tout. Mais en fait, beaucoup de choses sont finalement un peu montées et imaginées.
Ce qu'on peut voir maintenant sur les documentaires, sur tous les artistes qui permettent leur promotion, quoi.
Encore une fois, elle est précurseur de ça. Et on voit dans cette scène où il y a une montée de tension. On se dit, mais est-ce qu'elle va être arrêtée sur scène? Elle réunit ses danseurs avec elle, dit voilà. Elle les fait prier. Elle leur dit voilà, protégez les danseurs ce soir, etc. On va y aller, ça va être le meilleur show de notre vie, blablabla, etc. Et elle ne veut rien savoir. Elle se fiche de savoir qu'elle est menacée d'être arrêtée. Son management intervient en disant oui, quand même, est-ce que cette séquence-là, on ne pourrait pas l'enlever parce que lui, il voudrait que tu fasses un. Et puis, parce que les procureurs étant élus, notamment au Canada, elle s'en fiche totalement et elle va au bout de son idée. Et c'est elle qui gagne parce qu'en fin de compte, elle ne sera pas arrêtée. La police n'osera pas interrompre le concert parce que c'est Madonna, quoi.
Parce que c'est Madonna. Madonna qui, en 2003, embrasse langoureusement Britney Spears et Christina Aguilera lors des MTV Awards. Une scène très haute sur le plateau. Et en même temps...
C'est une scène haute, c'est une scène qui fait du bien parce que
bon, oui, joli. C'est joli.
C'est une scène qui fait du bien parce qu'en plus on est pré-mariage pour tous aux États-Unis, on sait pas rien d'une part.
Exactement.
De deux. C'est aussi une scène de passation de pouvoir, j'ai envie de dire, parce que Britney Spears et Christina Aguilera, c'est la jeune garde de la pop qui monte.
C'est ça.
Et je veux pas dire que c'est le baiser de la mort, mais Madonna qui a toujours su aller chercher un peu les énergies là où elle monte, etc. En fin de compte, elle va réussir à tenir encore quelques décennies. En embrassant goulûment, j'ai envie de ces deux stars. Ces deux stars que sont Christina Aguilera et Britney Spears. Et en embrassant Britney Spears devant les yeux, dans le public, de Justin Timberlake.
Le compagnon à l'époque.
Qui venait de dumper déjà
quoi, dumper
Britney Spears. Il l'avait jeté il y a quelques semaines auparavant.
Ah, donc en plus, elle apporte son soutien à une jeune femme éplorée.
Exactement.
Magnifique. En 2006, on est à Rome, elle est sur scène, elle interprète Live to Tell et elle se met en position de martyr sur un crucifix. Le cardinal Tonino demandera son excommunion qu'il n'obtiendra jamais car elle est toujours passée en fait au travers des gouttes.
Elle aura toujours réussi à passer au travers des gouttes. Alors après, je pense que faut pas oublier que Je t'aime moi non plus, qui est une de ses chansons préférées parce qu'elle aime beaucoup Serge Gainsbourg, a été excommuniée par le Vatican aussi en son époque. J'ai presque envie de dire pour une chanson, pour un artiste, quand vous êtes à ce niveau de notoriété et que votre chanson elle arrive jusqu'aux oreilles du pape, c'est presque une légion d'honneur.
Oui, c'est ça. C'est une bonne publicité.
C'est une bonne publicité. Mais effectivement, c'est une provocatrice qui n'aura jamais cessé de l'être et on la calmera jamais.
Madonna et les hommes. Madonna, un cœur qui bat aussi. Ce sera dans un instant sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit et qui vous parle ce soir de Madonna avec notre invité Romain Burel. Madonna, c'est une artiste qui revendique le droit de se comporter comme si elle en avait.
On dit souvent que je suis frustrée, que j'aimerais bien avoir un pénis. Je réponds, c'est vrai. Et mon pénis, c'est mon cerveau. La masculinité, l'agressivité et le fait d'avoir des couilles, peu importe, c'est un état d'esprit. On peut très bien se passer du petit bout de fer.
Moi, je suis d'accord.
Mais je pense que c'est, on peut difficilement dire qu'elle a tort quand elle dit comme, quand elle parle comme ça. Mmh. Clairement, le courage, l'audace, c'est pas l'apanage de petites choses qu'on aura entre les jambes. Hein.
Mais exactement. Alors ça, c'est clair. Et on le constate régulièrement. Romain Burel, Madonna, c'est une provocatrice sur scène, hein, on vient de le dire. Quand elle est amoureuse, est-ce qu'elle ne redevient pas quelque part la petite Louise Chicon qui rêvait de romantisme? On va parler maintenant, ouvrir le chapitre de la femme amoureuse. Alors, elle a évolué avec le temps.
Hein, oui, clairement.
Comme nous toutes, elle a appris beaucoup de choses.
Clairement, elle a été souvent amoureuse, en plus de personnalité, donc on lui prête énormément d'aventures. Alors, je ne vais pas faire le bestiaire du nombre de personnes qu'elle aurait eu.
Vous nous avez dit Jean-Michel Basquiat, ce qui est quand même pas mal.
Oh, elle a dit, si on veut passer par là, elle a daté Dennis Rodman, basketteur, à un temps. Elle a eu une relation...
Il avait dit qu'il ne nous le ferait pas, mais il le fait quand même.
Je crois qu'elle a été très amoureuse du rappeur Tupac Shakur, qui l'a quitté, qui lui a écrit une très très jolie lettre, très jolie, non, je dirais pas qu'elle était jolie, mais qui lui a expliqué pourquoi il l'avait quitté, une lettre qu'il a écrite en prison, qui a été vendue récemment aux enchères,
oui.
Où il expliquait que pour un artiste comme lui, du hip-hop noir, sortir avec une femme blanche et une chanteuse blanche, c'était pas possible, c'était pas bon pour, entre guillemets, sa street crédibilité à l'époque. On a un peu évolué là-dessus, j'espère, mais comme quoi, mine de rien, c'est le racisme,
c'est ça.
Elle l'a connu.
Elle l'a subi aussi.
Elle a, alors, pas subi elle, mais en tout cas, collatéralement, elle l'a connu, oui, effectivement.
Voilà, et l'artiste Tupac, donc, qui a été assassiné quelques années plus tard. Je voudrais qu'on revienne juste à Sean Penn. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est en 1985. Elle le rencontre, elle croise son regard sur le tournage du clip Material Girl. Il se marie le 16 août 85, donc ça allait super vite. Et moi, ça a bercé, pardon, mais mon enfance. Quoi.
Bah, je crois que c'est un des couples les plus emblématiques des années 80.
Oh.
Et en plus, c'était un couple...
C'était sulfureux quand même, c'était dur. Hein.
Un peu chaud, on va dire, en mode Frank Sinatra à Gardner, c'est-à-dire que quand ça hurle dessus, ça hurle très fort. Mmh. Tout le monde est au courant, les étages au-dessus, les étages en dessous. C'est une passion amoureuse qui va durer qu'un temps.
D'un homme violent et d'une jeune femme
Elle a toujours nié le fait que Sean Penn ait jamais levé la main sur elle. Mmh. Elle a toujours trouvé ses propos choquants, elle a écrit à la presse, elle a beaucoup parlé de ça. Elle a toujours vu en lui quelqu'un, en tout cas, de... probablement avec un tempérament volcanique. C'est quelqu'un qui buvait à l'époque, je crois qu'il s'en cache pas lui-même.
Bagarreur, mais, ça c'est
bagarreur,
sûr, ça c'est
d'ailleurs,
vrai.
Un soir, il croise un des danseurs de Madonna en boîte de nuit, et puis ils en viennent aux mains, on sait même pas pourquoi. Clairement, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Mmh. Le jeune Sean Penn qui était dans Outsiders, il est clairement resté très très longtemps un mauvais garçon, un bad boy. Mais c'est aussi le
ça a construit sa légende et son charme. Hein.
Mais c'est le profil d'homme qu'aime Madonna pendant très très longtemps, c'est les bad boys. Donc en fait, clairement, voilà, elle a un de ses points communs entre elle et moi.
Bah écoutez, entre elle et nous, très certainement. Mais néanmoins, Madonna, est-ce qu'elle n'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà même des hommes qui ont compté dans sa vie, c'est est-ce que ça n'est pas l'endroit justement où elle redevient quelqu'un de vulnérable? Parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu indestructible.
Vulnérable, je sais pas. Je sais aussi que, en tout cas, c'est des moments où elle apparaît différemment. On le voit un petit peu dans le film dont je faisais écho tout à l'heure, qui s'appelle In Bed with Madonna. On voit quelques scènes avec Warren Beatty. Elle a eu une aventure avec Warren Beatty. Warren Beatty, qui est un acteur qu'aujourd'hui peut-être les plus jeunes ne connaissent pas forcément, mais qui était vraiment un énorme acteur dans les années 60, 70, 80, avec qui elle jouera dans un fameux film qui s'appelle Dick Tracy. Et elle aura une relation assez courte avec lui, mais assez intense. Et on voit une femme qui est assez fière de son homme.
Mmh.
Et donc oui, là, elle a des moments où elle peut s'effacer dans le regard d'un homme, et notamment de l'homme qui partage sa vie. Elle aime être fière de la personne avec qui elle vit. Ouais.
Elle a eu des enfants aussi. Elle
Exactement.
A eu des enfants et elle a adopté des enfants.
Ouais, je crois que c'est une famille recomposée au sens large, une famille très moderne que celle de Madonna aujourd'hui. C'est pas un patriarcat, c'est un matriarcat.
Mmh.
C'est le centre de la vie de ses enfants, c'est elle. De pères différents pour les deux premiers enfants qui sont des enfants, alors si on doit le dire comme ça, mais des enfants naturels. Et puis après, elle a adopté deux autres enfants au Malawi.
Il y a eu un scandale autour aussi de l'adoption de son petit garçon.
J'ai envie de dire que forcément, quand vous êtes une superstar comme Madonna, il y a même une adoption.
Enfin, on a dit qu'elle avait obtenu des passe-droits en fait pour adopter son fils.
Peut-être, mais je pense aussi que la situation dans laquelle étaient ses enfants au Malawi était peut-être pas très très enviable et que heureusement que
elle
peut-être
a sauvé un petit garçon.
Et en plus, elle a ça pour elle de pas avoir été faire son marché au Malawi. Alors elle y retourne régulièrement. Elle a créé des associations là-bas, notamment à but humanitaire. Elle a donné énormément d'argent au Malawi. Elle continue à être très très au clair sur les origines de ses enfants, ce qui est important aussi. Je pense qu'elle est dans une dynamique qui est différente que celle de simplement venir chercher un enfant, se dire maintenant c'est le mien. Et en plus, elle s'occupe très ouvertement de ses enfants. Et David, le plus grand de ses enfants nés au Malawi, c'est, j'ai envie de dire, pour lui et à cause de lui qu'elle a déménagé à Lisbonne pour qu'il puisse jouer au football dans la meilleure équipe de football de jeunesse qui soit au monde.
Donc c'est une vraie maman.
C'est une vraie maman. D'ailleurs, son rôle de mère est probablement le rôle qu'elle prend le plus au sérieux dans sa vie.
Et j'imagine aussi en pensant quelque part à la sienne partie si tôt.
Et je pense que c'est pas évident de se construire une image de mère quand on n'a pas eu le mode d'emploi, quand on n'a pas eu quelqu'un au-dessus de soi pour jouer le rôle de passeuse. C'est probablement pour ça qu'elle s'est créé ce petit cocon de vie de famille compliqué, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a plusieurs papas dans la boucle, etc. Qu'on peut avoir un fils qui peut être un peu rebelle, qui aujourd'hui d'ailleurs vit avec son père à Londres et plus avec sa maman. C'est vrai que c'est beaucoup de défis qu'elle a dû relever seule aussi.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Madonna fait la une de Jour J ce soir, et après avoir parlé de la jeune Louise Chicken, de la Madonna libre, provocatrice et engagée, de la femme amoureuse, parlons maintenant de la comédienne du grand écran. Romain Burel, est-ce que c'est une grande comédienne Madonna ?
C'est une comédienne qui a pris son rôle de comédienne très au sérieux.
J'ai eu très très peur de vous poser la question, parce que je sais que c'est un peu votre idole.
Moi, je trouve que c'est une bonne actrice, d'une part. Je trouve qu'en plus, quand je dis qu'elle prend son rôle au sérieux, quand on disait tout à l'heure que c'était pas une grande chanteuse, il y a avant et après Evita. Elle va prendre des cours de chant d'une manière intensive.
Evita,
pour être
donc, il faut le dire, voilà, donc un film.
Elle va jouer dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, le rôle d'Eva Perón dans une comédie musicale qui avait très très bien marché à Broadway, qui s'appelait Evita. Et pour être à la hauteur de ce rôle, elle va prendre des cours de chant. D'ailleurs, sa voix change à ce moment-là, sa façon de chanter change. Et donc, c'est une actrice, j'ai envie de dire, très naturelle, qui n'a pas pris des cours de comédie tant que ça, mais qui est plutôt une bonne actrice.
Parce que c'était, paraît-il, son ambition. Il paraît que quand elle est rentrée en CM1, elle a dit « je voudrais devenir nonne ou star de cinéma ». Ouais. Ça a construit la légende ou c'est...
Ouais, mais alors j'ai envie de dire, ça c'est un grand point commun de plein de chanteurs et de chanteuses. In fine, ils veulent souvent au départ être acteur ou actrice. Lady Gaga voulait être actrice, David Bowie voulait probablement être acteur. Il y a plein de chanteurs et chanteuses comme ça qui ont explosé, qui avaient des ambitions de cinéma en début de carrière.
Alors elle a joué donc aussi au cinéma. En 85 d'ailleurs, on l'avait découverte en tant que comédienne dans Recherche Suzanne désespérément, où elle donne la réplique à Rosanna Arquette. Elle est passée elle-même deux fois derrière la caméra. D'ailleurs, elle a vécu avec un réalisateur, Guy Ritchie, un réalisateur britannique qui a dû évidemment l'inspirer pour plein d'autres choses. Et là, il paraît qu'elle est en train de réaliser son propre biopic. Elle fait comme Elton John.
Ah, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Ah bah, vous m'étonnez. Quand on regarde celui d'Elton John, quand même, on se doute qu'il est derrière.
Alors, moi,
c'est à la gloire d'Elton John.
En tant que fan, entre guillemets, de Madonna, ça m'inquiète un peu. Je ne suis jamais très rassuré quand c'est un artiste qui raconte sa propre histoire.
Bah oui, parce qu'on sait que ça va pas être particulièrement
ou pas, parce
objectif,
que je dois avouer que le Rocketman, le biopic d'Elton John, était assez réussi.
Oui, mais c'est à sa gloire.
C'est alors à sa gloire, et en même temps, je trouve qu'il passe pas sous silence son addiction à la cocaïne, sa relation avec les hommes, sa relation avec sa mère qui est très difficile, etc. C'est pas genre je me raconte en mode super histoire et très très happy, ce qui peut être quelque chose qui arrive dans des biopics, notamment quand ils sont produits par les personnes concernées. J'imagine que si Madonna décide de le faire, elle va avoir envie d'avoir un minimum d'honnêteté, et puis j'ai envie de dire, allez, elle est la seule à connaître vraiment sa vraie histoire, parce qu'elle est très très contrôle fric. Pour l'avoir rencontré.
Donc, contrôle fric pour ceux qui nous écoutent, hein,
elle contrôle elle... tout.
Absolument. Toute
absolument
sa communication.
Tout.
Oui.
Quand je l'ai rencontré pour une interview, il faut savoir qu'on signe un contrat de 12 pages incluant les choses qu'on peut dire et ne pas dire à l'issue de cet entretien.
Sans blague.
Et que j'ai à peu près galéré pendant une bonne année et demie d'échange de mails pour réussir à obtenir ce sésame de 20 minutes d'entretien avec elle. Donc effectivement, elle aime tout contrôler.
Mais donc il y a des trucs que vous ne nous dites pas là ?
Il y a des choses que je peux dire, puis il y a des choses que je pourrais jamais dire, je devrais embarquer dans ma tombe.
Que vous avez vu, c'est ça ?
Oui, en tout cas, elle s'entoure de beaucoup de précautions. Je pense qu'elle a été énormément trahie à des tas de niveaux dans sa vie, c'est-à-dire par les hommes, par son entourage, par son frère, qui a aussi balancé beaucoup de choses à la presse People un temps, par des interviews où ses propos n'ont pas été respectés.
Et qu'est-ce que vous risquez si vous nous dites des trucs ?
Je sais absolument pas ce que je risque. D'ailleurs, j'espère que j'ai un bon avocat. Mais en l'occurrence, je sais qu'elle était contente de l'interview parce que une de ses demandes était d'être relue avant. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu du journalisme que de faire relire une interview. Elle n'a pas échangé une virgule de l'entretien qu'elle m'a accordé. Ce que j'ai pris comme étant une marque de confiance de sa part et de montrer qu'en fait, elle était assez sport et il n'y avait pas de tabou. C'est-à-dire que souvent quand vous faites un entretien avec des stars de ce rang-là, il y a des questions que vous n'avez pas le droit de poser. On vous brief avant, on vous dit voilà, ça, par exemple, typiquement la vie privée ou des choses comme ça, vous n'y touchez pas. Moi, on m'a dit, il n'y a pas de tabou. On m'a dit, elle a très envie de parler de sa musique. Donc, je vous conseille plutôt d'essayer de vous focaliser là-dessus, mais il n'y a pas de question de tabou. C'est rarissime et ça explique aussi pourquoi Madonna est Madonna et pourquoi on l'entretient. Potentiellement, elle peut être aussi bonne. Elle a des saillies, on sait qu'elles sont parfois pas piquées des hannetons, pour reprendre l'expression de ma grand-mère, mais c'est parce qu'elle a cette liberté de ton là.
Dernière question, est-ce que Madonna a un problème avec le temps qui passe ? Parce qu'elle est aujourd'hui, on la voit sur les réseaux sociaux, on voit des photos d'elle qui apparaissent où elle est encore plus jeune que lorsqu'elle a démarré, où elle est un peu refaite de partout, même si elle reste sublime, athlétique, tout ce qu'on veut. Voilà, elle a un visage qui fait qu'on la reconnaît de moins en moins.
Alors moi, je déteste parler du physique des femmes et notamment des femmes qui
vieillissent. Non, je vous demande juste si elle a un problème avec le temps qui passe.
Ouais, mais alors moi je pense que quand on fait ce métier-là, c'est-à-dire de vouloir être acclamé par des milliers de personnes et de vendre des millions d'albums, c'est qu'on a déjà un problème avec le temps qu'on veut le marquer.
D'accord.
D'une part, je pense que Mick Jagger a le même problème que Madonna et que potentiellement Lady Gaga a le même problème que Ariana Grande de ce point de vue-là. On ne demande pas l'amour de millions de personnes comme ça à titre gratuit. Est-ce qu'elle a un problème avec le temps qui passe ? Est-ce qu'elle a le recours à la chirurgie ? C'est un truc très très
évident.
Évident et puis surtout très très commun aujourd'hui à Hollywood. Donc j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. La question est de savoir si une star de son rang est obligée de passer par les mêmes canaux que des stars plus jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les selfies de Madonna sur Instagram me font souvent rire parce que je trouve qu'elle est décalée. J'aime bien l'idée qu'une femme de passer 60 ans réclame encore sa sexualité. Mine de rien, ça peut faire de bien à toute une génération de femmes qui pensent que, en gros, passer un certain âge, on n'a plus de sexualité. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Maintenant, effectivement, je pense qu'elle a le même problème avec les filtres que de jeunes filles de 16 ans aujourd'hui. Et là, je lui applique la même problématique qu'à ma nièce, c'est-à-dire, fais un peu attention, les filtres, c'est pas la vie, et c'est vrai que l'image qu'on a de soi peut être déformée par les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Romain Burel d'avoir accepté mon invitation. Vous signerez le contrat, évidemment, de confidentialité en sortant. À bientôt sur RTL.
À très vite, merci.